Ça vous amuserait d'aller faire un tour en Israël? Hein? Hein? Eh bien alors, vous n'avez qu'à prendre vos pelles et vos pioches et puis vous venez. Hein? Non, parce que alors, là-bas en Israël, j'aime mieux vous dire qu'on a besoin de bras, hein? On n'a pas besoin d'intelligence. Ce qui intéresse, c'est les bras. Vous savez qu'en ce moment, ils sont en train de détourner le Jourdain. Ça prouve qu'ils ont un esprit un peu spécial, quand même, les Israéliens. Hein? En France, on détourne les mineurs, eux, ils détournent le Jourdain. Enfin, hein? Chacun y trouve son plaisir. Il prend son plaisir, surtout, oui, il le trouve. Et alors, puisqu'on parle d'Israël, si vous voulez qu'on aille faire un tour en Israël, je dois vous dire une chose, il y a deux possibilités quand on va en Israël. Il y a toujours deux possibilités, c'est ou vous êtes des Français qui êtes de religion juive, ou vous n'êtes pas, ou vous êtes des Français qui n'êtes pas de religion juive. Si vous êtes Français et que vous n'êtes pas de religion juive, vous n'avez aucune idée de ce que peut représenter Israël, et vous allez aller là-bas vraiment vierge, si ça je m'exprimerai ainsi, n'est-ce pas? Alors pour un Français qui n'est pas de religion juive, moi je crois qu'il n'y a aucune indication pour visiter Israël, parce que vous allez passer un des plus beaux voyages de votre vie. Vous allez voir des paysages absolument sensationnels. D'autre part, vous ferez, si vous êtes chrétien, un pèlerinage aux sources. Mais si vous êtes chrétien, je vous conseille d'aller d'abord en Jordanie. Et après, en Israël, si vous ne comprenez pas, ben, essayez de faire l'inverse, vous verrez. Hein? Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est aussi d'y aller avec deux passeports. Mais après, ça n'a pas d'importance. Au départ, si vous êtes français, que vous n'êtes pas de religion juive et que vous allez en Israël, le seul conseil que je vous donne, ce serait d'aller là-bas, de préférence, si vous y allez en avion, évidemment, avec un avion de la compagnie El Al. Oui, j'espère que vous ne croyez pas que je dis ça parce que la compagnie El Al me retourne sur les billets. Hein? Parce que si vous pensez ça, moi je vais vous rendre, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus intelligent après ça. Hein? Moi je ne peux pas supporter qu'on parle des choses pareilles de moi. Si vous ne comprenez pas, bien, vous n'avez qu'à aller demain dans une société musulmane d'aviation. Musulmane. Voyez-vous, avec le croissant vert, il faut que ça soit sûr que ce soit musulman. Sinon, ce n'est pas rigolo, tu vois. Hein? Jordanian Airlines ou Irakian Airlines, par exemple. Hein? Vous rentrez dans les bureaux et vous dites simplement donnez-moi un billet pour Tel Aviv. C'est tout ce que vous avez à faire. Le reste, vous le découvrirez tout seul. Je pense que, quand même, en principe, vous devez avoir une part de surprise personnelle là-dedans. Hein? Mais oui, quoi. Et alors, vous viendrez me dire ce qui s'est passé. Si vous ne pouvez pas parler, vous me l'écrirez. Hein? Et si vous n'avez pas les mêmes bandées. Hein? Et en sortant du plâtre, 6 mois après, hein, vous irez là-bas avec elle et vous ne m'emmerderez pas. Alors, en fait, initialement parlant, vous êtes français, vous n'êtes pas de religion juive. Comment peut-on vous considérer sur le plan philosophique? Eh bien, philosophiquement parlant, vous avez une éducation française stricte. Vous êtes donc ce que l'on peut appeler des êtres cartésiens. Or, Israël est le paradis des cartésiens. C'est un des rares endroits du monde où vous verrez des maisons commencées et finies. Et ça, ça fait plaisir quand on habite la région parisienne et qu'on a acheté il y a 3 ans, très cher d'ailleurs sur plan, un appartement dont on attend pour qu'on vous le livre que l'ingénieur sorte de tôle. Hein, ça a l'air de rien. Ça fait sérieusement plaisir. Et alors, d'autre part, les Israéliens, vous savez, adorent les Français. Les Israéliens sont des gens qui sont déjà assez durs quand on leur fait des vacheries. Ils n'oublient pas, mais quand on leur fait des gentillesses, ils n'oublient pas non plus. Or, les Israéliens savent ce qu'ils doivent aux Français. Il faut dire que la France, depuis 1948, leur a donné aux Israéliens des conseils merveilleux, des conseils fraternels, des conseils affectueux, des conseils pertinents, des conseils patents, 3 Mirages et 1 Véronique. Alors, on est quand ça ne s'oublie pas, ça. Hein? Alors, on arrive là-bas, on est vraiment aimé en Israël. Quand vous arrivez, vous voyez, Français, les yeux s'illuminent tout de suite, alors qu'avec les autres étrangers, ils sont beaucoup moins gentils. On est presque gênés d'être aussi bien accueillis, quoi, finalement. Alors, par exemple, les Américains, ils détestent les Américains. Les Américains, eux, leur ont donné des dollars, quoi. Des dollars, des paquets de dollars, sans la dignité, n'est-ce pas? Ce qui fait que les Israéliens se vengent. Hein? Et ils ont pris les dollars parce qu'ils en avaient besoin. On ne peut pas créer un pays sans dollars, tu comprends? Seulement, ils se vengent en mettant des noms américains à toute leur rue. Seulement, évidemment, c'est des Américains qui s'appellent Baruch, Weissman, Rosenthal. Alors, bon, il faut savoir que c'était des Américains, quoi, c'est tout. Le tout est d'être au courant, n'est-ce pas? Donc, tu es français, vois-tu, et finalement, tu n'es pas de religion juive, tu arrives sur le terrain là-bas, le terrain, tu vas descendre sur le terrain de l'Aude. Et tu tombes en principe là-bas sur un officier d'immigration qui n'est pas plus idiot que n'importe quel officier d'immigration, et pas moins d'ailleurs, enfin tu vois, c'est l'officier d'immigration classique. La seule chose qui va t'étonner, c'est qu'on va insister sur l'hôtel où tu descends. C'est la première question qu'on te pose, à quel hôtel voulez-vous descendre? Alors comme vous n'êtes pas de religion juive, vous n'avez peut-être pas de parents là-bas, ou pas au courant, je vous indique un hôtel sensationnel, parce que s'il n'y a pas des places dans la maison mère, il y a toujours des places dans une des succursales qui se trouve sur le territoire. Cet hôtel s'appelle Kibbutz. Notez bien l'hôtel Kibbutz, n'est-ce pas, le grand hôtel Kibbutz. J'aimerais qu'un jour il y en ait un qui le dise là-bas. Le type qui arrive, qui dise Kibbutz, il faudrait qu'il tombe juste sur l'officier d'immigration qui ne parle pas français, c'est ça le rêve, tu vois, qu'il lui dise Kibbutz, zigné. Tu vois le mec 6 mois après, tout brun, musclé, les mains calleuses, qui revient à Paris avec des revolvers partout en disant, vous l'avez pas vu ce salaud de René? Ça c'est terrible, surtout s'il ne m'attrape pas. Oui. Thank you. Alors donc, vous arrivez sur le terrain, vous allez voir qu'arrivez sur le terrain là-bas, vous avez une délégation de jeunes cactus ambulatoires, n'est-ce pas, qu'on appelle là-bas des sabras, vont venir vous accueillir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans les films au moins, mais en fait, un Israélien d'origine qui est né sur le sol, depuis il n'y a pas tellement de générations, vous savez, de toute façon, là-bas en Israël, celui qui est né sur le sol, en principe, il a la tête de tout ce qu'on veut, sauf d'un juif conventionnel, n'est-ce pas? C'est conventionnellement, est-ce qu'il paraît que les juifs ont une tête particulière? Moi, j'ai déjà remarqué que quand on dit à quelqu'un je suis juif, il vous dit ça se voit pas. Alors, il s'attend probablement à ce qu'on ait un œil au milieu du front, une petite queue, qu'on fasse bip bip, n'est-ce pas? Ou deux cornes, on va savoir. Il doit avoir une espèce de martien. Alors, donc, là-bas, en fait, vous tombez sur des types qui vous étonnent. Ce sont 2 mètres de haut, des épaules très larges, une taille mince, un nez droit, des yeux bleus. Ça ressemble un petit peu à des SS, quoi, dans le sens conventionnel. D'ailleurs, je pense que vous avez vu, vous aussi, le voyage de Paul VI en Terre Sainte. Il n'y a pas de raison que je sois le seul qui s'est farci 6 fois le pèlerinage de Paul VI en Terre Sainte au cinéma. Non, vous l'avez vu, le documentaire de Paul VI en Terre Sainte, enfin, en couleur. Vous n'avez pas vu les Israéliens, la blague qu'ils lui ont fait à Paul VI? Enfin, vous n'avez pas vu que tous les Israéliens qui sont là pour accueillir Paul VI sont des types de 2 mètres de haut, vraiment blonds, les yeux bleus et tout. Vous n'avez pas vu que le seul qui a une tête de juif, c'est Paul VI? Non, vous n'avez pas vu ça. C'est le seul qui était tout brun, le nez busqué, il est arrivé les mains en avant, comme ça. Vous avez l'impression qu'il allait de sortir les rouleaux, dit. Non, non, c'est vrai. Et alors, c'est le seul qui a parlé en ivrite, quoi. Le seul qui a parlé hébreu, c'est lui. Tous les autres ont parlé français. Il n'y a que Paul VI qui a dit shalom, shalom. Même que les gens autour de moi, ils disaient pourquoi il est insulte, ils ont l'air gentils. Hein? J'étais une délégation auvergnate qui était là. Oui. Juste avant que tu vois Paul VI en train de bénir, tu as vu les eaux du lac de Tibériade. Enfin, tu crois qu'il bénit les eaux du lac de Tibériade. La caméra tourne et tu t'aperçois qu'il bénit 12 journalistes dans l'eau jusqu'aux genoux, n'est-ce pas, qui sont là. On sent qu'ils ont essayé de marcher sur l'eau, mais ça n'a pas gazé. Enfin, vous voyez un peu, donc tu arrives. Finalement, tu arrives donc comme ça, tu vois sur le terrain à Lod, il y a une bande de jeunes Israéliens en short, grands beaux garçons, costauds et tout, qui vont avec affection, ils t'embrasseront virtuellement, tu disant vous êtes français, nous aimons énormément les français, ça nous fait d'autant plus plaisir que des français se dérangent pour nous voir. Alors venez voir ce qu'on a fait. Les Israéliens sont très fiers de ce qu'ils ont fait, il faut dire qu'ils ont fait des choses extraordinaires, absolument extraordinaires, il faut même être israélien pour avoir des idées à la con, pareil quoi, enfin, je veux dire, oui parce qu'il y a Tel Aviv par exemple, on sent qu'ils ont relevé une gageure mais il manquait de cric, quoi, ça c'est la moindre des choses, Tel Aviv est une ville magnifique. Ils ont relevé la gageure de faire une ville en plein désert. Moyennant quoi, il y a toujours la ville et le désert aussi. Oui, enfin, je vous conseille d'aller passer quelques jours, par exemple, quand il fait du Khamsin là-bas. C'est un petit vent du désert, un petit vent frais, vous savez, un petit vent frais que... les saunas, vous savez ce que c'est une sauna finlandaise, hein? Merveilleux, une sauna finlandaise à côté de Tel Aviv, un jour de Khamsin. Et alors donc, on te fait visiter les endroits, tout ça. Je me rappelle, moi, la fois que je suis allé là-bas, on me fait voir des trous à Haïfa. Je dis, qu'est-ce que c'est? C'est les bombardements arabes? On me dit, non, c'est les Français. Je dis, les salauds? On me dit, non, c'est le métro. Et alors, ouais, et puis enfin, maintenant, il y a un métro, tout ça. Puis alors, on t'amène voir l'Institut Weizmann. Pour un Israélien, il est évident, moi, je raisonne en Israélien et en pacifiste. J'estime que la plus belle gloire, en quelque sorte, d'Israël, c'est l'Institut Weizmann sur le plan agronomique, recherche agronomique. Vous savez qu'ils ont 200 ans d'avance sur n'importe quel institut de recherche. Alors donc, on va te faire visiter dans l'Institut Weizmann la section agronomie pour un Français. En principe, les pots de fleurs, hein, des trucs dans des pots, ça ne nous amuse pas follement. Mais enfin, faites leur plaisir, dites, extasiez-vous, quoi. Ils sont tellement heureux d'avoir fait ça, hein. Tu lui dis, il y a ma tante Agathe qui avait des jolis pots comme ça aussi. Ça, hein. Et alors après ça, on te prépare le miracle israélien. Pour le miracle israélien, on va vous mettre dans des cas de l'Institut Weizmann. Ce sont des cas de 11 places dans lesquelles on est 13, puisqu'on est 11, plus le chauffeur et l'interprète. Ce sont des cas, vous savez les cas BMW, là, ou Volkswagen, où il y a le moteur à l'arrière, et qui laisse bien fermé pour pas que la chaleur du moteur puisse en aller. Il faudrait pas. Donc on va vous envoyer dans le Negev, n'est-ce pas? Un endroit glacé, très très glacé, en principe. Et alors, dans ce cas-là, on vous propulse donc en plein désert du Negev, là, bien, bien fermé. Vous connaissez le désert du Negev? Vous voyez, vous connaissez le Sahara, sans doute. Donc, si vous connaissez le Sahara, vous avez vu, le Sahara, par rapport au Negev, on peut dire que le Sahara, c'est un oasis verdoyant, n'est-ce pas? Oui, parce que le sable, quand tu le prends dans le Sahara, il te coule entre les doigts. Dans le Negev, il est vitrifié par plaques. Voilà, tellement il fait frais, ça a gelé le sable là-bas, comme ça. Alors, tu te vois à 13 dans un car bien fermé, avec la chaleur du moteur et le soleil qui tape dessus. Au bout d'un moment, tout le monde se regarde. Et tout le monde pense, ils doivent croire que je suis un ancien SS, c'est pas possible. Hein? Hein? Et juste au moment où tu vas tout dire, c'est pas vrai, c'est pas moi, j'allais presque pas brûler, puis j'avais des ordres. Juste à ce moment-là, le miracle israélien, il est à tes pieds. Le car est monté en rédillant, et de l'autre côté, c'est le miracle. Les Israéliens sont des gens qui ont le sens de l'humour, vous l'avez compris, avec l'accueil qu'ils ont fait à Paul VI, n'est-ce pas? Et ayant le sens de l'humour, ils vous mettent dans la merde noire pour mieux vous faire apprécier la différence. C'est-à-dire, en haut de la côte, tout d'un coup, et je peux vous en parler maintenant, je vous certifie que vous serez encore surpris, malgré ce que j'en dis, de droite à gauche de l'horizon, de la verdure à perte de vue, des jets d'eau qui montent au ciel, avec des oranges géantes, des concombres géants, des melons, des pastèques géants, tout ça tout autour de vous, tous ces légumes, tous ces fruits, c'est formidable, c'est merveilleux. Alors, vous êtes français, vous n'êtes pas de religion juive, vous êtes donc strictement cartésien, et vous dites, oh putain, maman, atso, popopo, alliance, tu as vu? Et vous revenez en France avec des idées paradisiaques, n'est-ce pas? On dit chez nous des idées édéniques. Voilà. Maintenant, le problème est si vous êtes des Français qui êtes de religion juive. Alors, si vous êtes Français étant de religion juive, à ce moment-là, je vais vous prévenir de quelques petits trucs, quoi, qui vont vous éviter de vous faire du mauvais sang, là-bas. Étant Français, d'abord, et étant de religion juive, qu'est-ce que vous représentez sur le plan philosophique? Bien, quand on est Français, on a donc automatiquement l'éducation française qui donne un esprit cartésien, et étant pratiquant le judaïsme, qui est une religion terriblement empirique, on est de ce fait empirique. Donc, un Français de religion juive est un empirico-cartésien. Un type très, très dur à posséder en affaires. Vous comprenez, si jamais vous le possédez sur le plan empirique, il vous reprend sur le plan cartésien et réciproquement. Vous êtes protégé par deux cuirasses philosophiques, c'est dur à percer. À moins d'avoir quelque chose à l'acier sémanté. Et alors donc, étant français de religion juive, tu vas arriver là-bas, toi évidemment, tu vas y aller avec Elal, tu sais très bien qu'il vaut mieux prendre Elal, ou alors rigueur peut-être tu prendras le Shalom, ce nouveau bateau de la Jim, et tu vas arriver là-bas, mais considérons Lod, toujours, allez, faisons le même voyage. Tu arrives sur le terrain à Lod, officier d'immigration, et puis après ça, évidemment, les jeunes Sabras qui viennent t'embrasser, mais qui vont t'accueillir, c'est la première chose qui va un peu t'étonner, peut-être beaucoup plus comme français que comme juif. Oui, oui, parce qu'il y a une chose qui est assez... ils n'ont pas l'air de tenir tellement à ce que si on est français, on est l'idée à la con de rester là-bas, tu vois. C'est le grand problème israélien, finalement, je crois que c'est ça. C'est les Français de religion juive qui ont fait la connerie d'accepter sans réfléchir en 48. Et donc, ils ne savent plus quoi foutre à l'heure actuelle. Vous avez des tas de gens qui disent, oui, en Israël, là-bas, leur problème numéro un, c'est les Arabes autour, toutes ces armées arabes qui risquent de les envahir. Mais qu'est-ce que tu veux que les Israéliens, ils en aient à foutre des armées arabes, non? Surtout les soldats israéliens. Lorsqu'ils en ont marre de voir des Arabes autour, un brave petit squelette, tu vois, un petit soldat israélien, il va à la frontière, il fait bouh! Et une journée après, les Arabes, à 200 km de là, montent un monument à la gloire de leur retraite. Alors, vous comprenez que ça l'armée arabe, ça, ils s'en fichent. Ça. Dans ce qu'en mettent les Israéliens, ce sont les Français de religion juive qui ont accepté en 48. Tu sais qu'en 48, il y a eu un grand élan sioniste. Il y a des tas de types qui ont dit, on doit y aller. Enfin, ils sont arrivés là-bas en chantant, arrivés là-bas, ch'tac, on leur a collé une charrue. Et est-ce que vous avez déjà touché une charrue? Je m'adresse particulièrement à ceux d'entre vous que je reconnais à vue de schmack à droite et à gauche, comme ça. Là. Est-ce que déjà vous avez en France eu l'occasion de... Est-ce que vous savez seulement ce que c'est une charrue, hein? Moi, chaque fois que je touche une charrue, je me gratte pendant 3 semaines après ça. Valérie Radeau m'a dit que j'étais anaphylaxique à l'instrument aratoire en général et à la charrue en particulier. Alors pourquoi vous autres, ça serait pas pareil? Alors tu vois, ces malheureux Français, quand on leur a mis ça dans les mains, ils ont dit « on s'agourait ». Ils ont dit « on repart ». Mais va te faire fiche, ils avaient changé en livre, c'était fini, plus de pognon, comment tu voulais qu'ils s'en aillent, hein? Alors ils sont restés et on a fait un kibbutz strictement français. C'est-à-dire les hommes, les femmes, vous savez comment c'est la vie des kibbutz. Vous connaissez le club méditerranéen, non? Hein? Le club méditerranéen, c'est guindé à côté de la vie du kibbutz, quoi. Tu vois, pour que tu aies une idée. Alors, tu vois, des Français, hommes et femmes, mélangés en toute liberté, des Français, tu vois pas le scandale que ça a fait là-dedans. Ça a fait un scandale à 50 km à la ronde. Vous savez qu'en Israël, il faut pas enlever 50 km de territoire à la ronde, hein? Il reste plus grand-chose là-bas, moi je te le dis, hein? Puisque dans le train Haïfa Tel Aviv, il y a écrit, il est interdit de se pencher en Jordanie. Hein? Alors 50 km à la ronde, tu nages vers Chypre. Donc, quand on a vu ça, ils se sont dit, là-bas en Israël, ils ont dit, puisque on va les étouffer, ces Français, hein, et ils les ont mis 10 par 10 dans tous les kibbutz. Étouffer un Français, dit, mais chigué, non, mais ils sont fous ces mecs-là. Ils ont foutu le bordel dans tous les kibbutz. Aux dernières nouvelles, est-ce qu'il paraît qu'ils essaient de les refiler un pour deux aux Jordaniens? Je ne sais pas si les Jordaniens vont marcher, c'est l'Istadrout qui s'en occupe, mais tu sais, les Jordaniens, déjà, on leur a refilé les Palestiniens. Remarque qu'ils se sont vengés en nous rendant les Irakiens, mais comme on a assimilé les Irakiens, ils sont encore possédés. Enfin, au dernier score, on était 15-30. On ne sait pas comment ça va être. Enfin bon. Tu as bien compris, donc tu arrives là-bas, les jeunes Israéliens t'accueillent, venez voir ce qu'on a fait, etc. On te fait visiter tous les hauts lieux, n'est-ce pas, le front de mer à Tel Aviv, deux, trois usines de potasse vers Sedom, enfin tout ça, l'Institut Weizmann, le pot de fleurs, toi aussi tu y as droit comme tout le monde, ça t'intéresse autant, à part que toi tu diras, tiens, c'est la tante Sarah qui a les mêmes, enfin bon, hein, et puis enfin tout ça, et puis alors on te fout dans le car pour le miracle israélien, il n'y a pas de raison que toi tu puisses passer à travers, n'est-ce pas, le car à 13 pour 11, tu vois, bon, alors tu pars dans le Negev, mais étant juif, évidemment, tu sais très bien que tu n'étais pas SS, je t'avoue qu'en réalité, au bout de 10 minutes, tu sais plus rien du tout, c'est tellement chaud là-dedans, tout ce que tu veux, c'est descendre, alors, bon, enfin bref, vous arrivez comme ça, donc, en haut de la côte, et c'est exactement la même chose comme pour tout le monde, pour toi, c'est le miracle israélien, exactement la même chose, de droite à gauche, de l'horizon, la verdure, les oranges géantes, les concombres géants, les melons, les pastèques et tout, alors ton esprit cartésien, prends le dessus et tu dis, oh, putain, à ce moment, voyons, regardez un peu tout ça, hein, et voilà que ton esprit empirico juif arrivant tout doucement derrière te fait dire tout bêtement, et pourquoi on les ramasse pas? Oui, vous comprenez que, et vous, tout à coup, là, si j'avais pas éveillé ça en vos esprits, vous aviez le cafard pendant 8 jours après ça. Parce que vous vous rendiez compte de cette espèce d'échec, cette espèce de mur qu'il y a devant l'État israélien. Le jour où Herzl a eu cette idée de faire un État juif, il n'a pas pensé qu'en faisant ça, il allait mettre ensemble 2 millions de juifs. C'est le nombre à peu près qu'il y en a maintenant. En mettant que des juifs ensemble, il n'a pas pensé qu'il allait y avoir donc que des juifs. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, il y a 2 millions de juifs en Israël, c'est-à-dire 2 millions de gros cerveaux intelligents, tellement intelligents qu'ils arrivent à faire pousser des légumes dans le désert. D'accord? Mais où elles sont les mains pour ramasser les légumes que les cerveaux ils ont fait pousser? C'est ça le problème. Israël, c'est le régiment où il y a 350 colonels et un soldat. Ce qui fait qu'à force de balayer les latrines, n'est-ce pas, il se sent visé, le soldat. Mais oui! D'ailleurs, en parlant de balayer, tenez, tous ceux d'entre vous qui êtes de confession israélite, en arrivant à Tel Aviv, sur la place Mograbi, là-bas ou ailleurs, n'est-ce pas, vous allez pleurer quand vous allez voir ça. Vous allez voir des juifs en train de balayer les trucs. Des juifs qui balayent les rues. Vous allez trouver ça tellement normal que vous ne devez pas être français. C'est pas possible. Non, et vous connaissez beaucoup de balayeurs municipaux juifs à Paris? Non, je vous pose la question, parce que si vous connaissez un juif balayeur de rue, j'aimerais que vous me l'ameniez. Par curiosité, même un tout petit, je m'en fous, s'il n'est pas grand. Avant de mourir, je voudrais en voir un en France, quoi, comme ça, hein. D'ailleurs, moi, je suis persuadé qui sont antisémites là-bas en Israël, finalement. Des flics juifs en uniforme au soleil, là, transpirés comme ça, hein? Vous avez vu en France beaucoup de flics juifs en uniforme, des préfets de police peut-être, mais des flics en uniforme juifs, vous en connaissez beaucoup. Pourtant là-bas, on comprend, ils ne peuvent pas engager des Jordaniens pour faire la police finalement, hein? J'ai vu la chose, moi, la plus épouvantable, dit, il y a de quoi pleurer, non? Des arpenteurs juifs, toujours mesurés et jamais vendre. Oui, alors on va s'en aller d'Israël, puisqu'on est arrivé à Israël, il faudrait partir. Alors nous allons partir d'Israël par le chemin normal pour les Israéliens, c'est-à-dire direction l'Égypte. Enfin, on en reparlera dans quelques années. Nous allons donc partir avec le deuxième miracle israélien, c'est-à-dire l'armée israélienne. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est miraculeux cette armée israélienne. Parce qu'une armée où tout le monde est intelligent et qui fonctionne, je ne sais pas si vous comprenez, je vois plus je vois vos têtes, puis je me demande si vous pouvez comprendre une chose pareille. Mais quand on est intelligent, on ne peut pas être un bon soldat. Un bon soldat, c'est le type à qui on dit en avant, et pas, qui fait déjà un pas. Tandis qu'un type intelligent, tu lui dis en avant, et le type, il dit pourquoi. Non, c'est élémentaire. Et pourtant, l'armée israélienne, elle fonctionne. Ça, il n'y a pas à tortiller. Demandez aux Égyptiens ce qu'ils en pensent de l'armée israélienne. Mais demandez aux vrais Égyptiens, pas aux ceux qui étaient en uniforme, qui sont restés au Caire, demandez à ceux qui couraient. C'est à ceux-là qu'il faut demander, tu comprends? Parce que les autres, c'est un mauvais interview, tu vois, à partir de là. Alors, l'armée israélienne fonctionne, ça, c'est absolument évident. Mais seulement, il a fallu prévoir, évidemment, un manuel du soldat israélien un peu spécial. L'article 1er, il est formellement interdit de donner des conseils à ses officiers. Oui, parce que c'est très difficile, tu sais, pour un juif, quand on lui dit si on allait par là, qu'ils disent ouais, d'accord, mais si on allait par là, ça reviendrait à meilleur compte. Alors, non. Oui, puis alors, article 2, il est formellement interdit de proposer un marché à son officier, tu comprends? Et si je vous fais avoir 2 boîtes de cartouches, vous me faites avoir une permission pour le sabbat, ça c'est interdit, tu comprends? Absolument interdit. En fait, cette armée a fonctionné d'une manière absolument terrible. Mais seulement, voilà, il y a toujours à critiquer. Mais là, c'est évident, la critique est évidente. Les soldats israéliens ne savent pas courir. Mais jamais, les soldats israéliens n'ont jamais su courir. Regardez pendant la campagne du Sinaï, hein, les Égyptiens leur prenaient 150 km d'avance par jour. Hein? C'est ignoble de courir aussi mal. Chaque jour, ils leur prenaient 150 km d'avance. Hein? Seulement, évidemment, les Égyptiens, ils ont employé des moyens déloyaux. Quand ils ont vu qu'ils avaient des Israéliens derrière eux, ils ont jeté les souliers neufs. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, hein? Alors, France, pendant que les Israéliens aient ramassé les souliers, les autres, et allez! Comment tu vas courir, toi, avec les souliers, le fusil et tout, hein? Mais ouais, et c'est à la suite de ça que Nasser a fait au Caire un monument aux souliers égyptiens, le vainqueur du Sinaï. Vous verrez, sur un soubélisque tronqué.